Un adolescent de 17 ans poignardé.
Une autre femme assassinée.
Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
Les formations politiques s'arrachent le vote des familles.
Comment faire fructifier votre argent sans risque?
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
En manchette dans cet épisode, l'affaire Amira El-Gawabi continue de faire beaucoup de bruit. Les péquistes font enfin leur entrée au Salon Bleu sans avoir prêté serment au roi. Procès de Mario Roy, une avocate intimidée craignant une attaque armée au barreau. Et une vidéo d'une déposition de Donald Trump dévoilée au public.
Tout savoir en 24 minutes. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Alors, ça continue de faire du bruit et beaucoup, toute cette histoire de la nomination d'Amira El-Gawabi, je dis bien, alors que Justin Trudeau a réitéré un appui à 100% à cette nouvelle représentante fédérale de la lutte contre l'islamophobie.
Mais ce matin, c'était presque de la provocation, le monsieur Trudeau qui envoyait promener tout le monde au moment où ses propres ministres du Québec se disait mal à l'aise avec les propos de les propos passés de cette femme-là, requérait explications, excuses de toutes sortes de formes. Évidemment, les ministres du gouvernement Trudeau, ils faisaient attention, et lui arrive, puis c'est bing-bang, elle est parfaite, je suis d'accord avec elle à 100%.
Son lieutenant pour le Québec, Pablo Rodriguez, lui-même, là, tu le dis,
blessé par les propos, il l'a dit, je l'ai été, et je le suis encore. Alors, Justin Trudeau, ça paraissait... Ce matin, on avait l'impression qu'il aimait ça, là. C'est-à-dire que le débat que ça enclenche, ça le positionne, lui, dans une espèce de position de force. Il fait ce qu'il veut, il s'en fout de ce qui se pense, de ce qui se dit au Québec, etc. C'était étonnant à voir.
Ouais, et ça a très, très mal passé.
Ça a eu des effets, oui.
Ça a eu des effets, ça a très mal passé du côté de la classe politique, évidemment, ici à Québec. Là, François Legault, le premier ministre, qui a réagi en disant que M. Trudeau venait cautionner le mépris envers les Québécois avec cette déclaration, en défendant, là, il dit que s'il la garde en poste, M. Trudeau, là, il cautionne justement là, tout ce mépris envers les Québécois. Jean-François Roberge, le ministre responsable de la laïcité des affaires, là, des affaires canadiennes également, qui a aujourd'hui réagi déjà. Il avait demandé au départ des excuses, ensuite la démission de Mme El-Gawabi, et finalement, aujourd'hui, a dit, ben, on gagnera pas tous les combats face à Ottawa, mais il est toujours, évidemment, là, en recherche de réponses, et des réponses, il risque d'y en avoir quand même dans les prochains jours. Là, on est censé avoir une rencontre demain entre le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, et la dame en question, le Madame El-Gawabi, pour fournir des explications supplémentaires.
Mais pour le pauvre Yves-François Blanchet, là, cette rencontre-là est un peu empoisonnée dans le sens que l'Assemblée nationale demande déjà sa démission. Je veux dire, ben, la rencontre est empoisonnée, à moins que lui-même, il s'en foule, mais il peut pas. Est-ce qu'il peut vraiment sortir de là en disant ah, ben là, je trouve...
Peace in our time.
Ouais, ouais, c'est ça. Là, je trouve que c'est vraiment bien ce qu'elle m'a dit. Parce que, comment je dirais ça? Quand ça fait des années, maintenant, quelqu'un... quelqu'un est connu. Lui, là, c'est un partisan des Bruins de Boston, là. Puis, mettons, quelqu'un d'un de tes amis est partisan des Bruins de Boston. Ça fait 15 ans que t'as des déclarations de lui comme quoi il aime les Bruins. S'il dit demain, à moi, les Bruins, je les ai jamais aimés. Attends un peu. Et c'est pour ça que je dis, elle, si elle nous dit demain, moi, les Québécois, je les aime assez, ça a pas de bon sens. Dis, voyons, ça fait des années des textes qu'elle a écrits. Encore pire, elle écrit que verbalement, elle a pris le temps à peser ses mots, sa plume. Ouais. Disant que les Québécois avaient un problème avec l'immigration, c'était des racistes, cherchant une pureté du sang, tout sortes de procès d'intention, des affaires qui n'ont jamais été discutées au Québec. J'essaie de voir comment Yves-François Blanchet pourrait sortir de la rencontre et dire, ah non, là, écoutez, là, elle comprend le Québec maintenant, elle a une toute autre vision.
Ouais, et là, l'Assemblée nationale, qui siégeait aujourd'hui, c'était la rentrée parlementaire, a adopté une motion en ce sens, demandant là, le départ de Mme El-Gawabi.
C'est ça, qui n'a pas été adopté à l'unanimité.
Ben, on dit unanime, parce que personne s'y est opposé, mais Québec solidaire qui a décidé de s'abstenir sur la question. Gabriel Nadeau-Dubois sur Twitter il y a quelques instants qui a écrit qu'il souhaitait avoir plus de questions à lui poser à elle directement.
Il veut la rencontrer comme Yves-François Blanchet et dit qu'il pouvait pas voter sur la motion avant la rencontre.
Oui, et donc c'est peut-être une position plus politique ça, Mario. C'est un jeu de funambule un peu pour Québec solidaire.
Et là, Québec solidaire s'est retrouvé quand même isolé. Là. Et surtout qu'il y a un député de Québec solidaire. Parce que là, il y a deux caucus qui semblent divisés. Hier, au Parti libéral, une députée qui a donné son appui à Mme El-Gawabi, en fait, à la nomination de M. Trudeau. Plus tard en journée, le chef du Parti libéral, Marc Tanguay, a dit non, non, nous, on a des malaises, ça prendrait des excuses. Et même ce matin, il allait encore plus loin. Il disait les excuses doivent venir rapidement, sinon elle devrait quitter ses fonctions. Et le Parti libéral a voté avec le gouvernement aujourd'hui sur la motion. Or, Québec solidaire aussi a de la division dans son caucus, parce qu'il y en a qui semblaient avoir des malaises avec les propos de Mme El-Gawabi. Par exemple, tu as le député Arun Boisy, député de Maurice Richard, qui, lui, sur Twitter, a dit non, non, tout ça, c'est de la mascarade de la CAQ, c'est une façon de détourner l'attention des vrais problèmes. Alors, lui, il semble pas avoir de malaise, il semble pas considérer que c'est un vrai problème, là, les propos de Mme El-Gawabi envers les Québécois. Écoute, ça a vraiment brassé aujourd'hui. Sincèrement, ouais. J'ai rarement vu une nomination. Là, comme là, au Québec, dans deux caucus, t'as des dissidences. Bon, au Parti libéral, ils ont rafistolé ça. À Québec solidaire, les dissidences semblent encore ouvertes. Puis finalement, ouais. On s'est abstenu de voter. Mais est-ce que la demande de rencontre de M. Nadeau-Dubois est une stratégie habile pour se dire, ah, moi, on peut pas voter. Nous, on a demandé une rencontre avec, ouais. on peut pas voter pour sa destitution avant de l'avoir rencontré. Est-ce que c'est une stratégie habile? Parce que peut-être, écoute, il y a des traits nationalistes, là. Ouais. Seul Zanetti, c'est le fondateur d'Option Nationale, qui était un parti indépendantiste, puis tout ça. Je suis convaincu que lui est pas d'accord avec cette nomination-là.
Québec solidaire, qui est un parti indépendantiste sur papier aussi, Mario, ouais. Là. Faut-il ne pas l'oublier?
Donc, peut-être qu'on était pas capable de se réconcilier plutôt que de se diviser. Ouais. Sur le vote, on a préféré s'abstenir. C'est une position de compromis. Mais moi, je suis obligé de penser que Justin Trudeau fait ce qu'on appelle en anglais du wedge politic, de la politique, de la division, dans un strict calcul partisan, calcul électoral, en disant, regarde, dans 2 ans, là, la population va oublier cette histoire-là. Sauf que le groupe visé, la communauté culturelle visée, eux, ils vont m'être fidèles pour la vie. Eux autres, j'ai leur vote pour longtemps. Là,
ouais, et surtout qu'il y a beaucoup de propos qui ont continué de sortir qu'aurait proféré là, Mme El-Gawabi dans des textes, entre autres des chroniques, où elle s'exprimait à toutes sortes d'endroits. Et ce matin, dans l'émission de notre collègue Richard Martineau, ici à Cube Radio, Mario, eh bien, on a reçu Jack Jedwab, qui était de l'Association d'études canadiennes, qui avait commandé, là, c'est le président, qui avait commandé le sondage sur l'islamophobie au Québec à l'époque. Là. Ce sondage, qu'elle citait en disant là, qu'il y avait au Québec là, une grande proportion de gens là, qui, en appuyant la loi 21, mais se retrouvaient à avoir un sentiment défavorable envers les gens d'origine avec une confession islamique. Exactement. Eh bien, lui, on l'a contacté aujourd'hui. Finalement, il y avait une toute autre réponse pour nous, Mario.
Non, je pense que personnellement, elle utilise le sondage pour supporter sa critique et son opposition envers la loi 21. Regarde, des gens qui opposent la loi 21, ils ont différentes façons de l'exprimer. Je pense que c'est ça qui la dérange et utilise le sondage à cette fin.
Oui, parce que dans le même sondage...
Donc, qu'elle exagère l'interprétation qu'elle fait du sondage, n'est pas factuelle.
Ben, en fait, ce qui est étrange là-dedans, c'est qu'elle oublie de prendre en compte cette proportion qui existe aussi dans le reste du Canada, qui est également dans l'étude. Si au Québec, la différence, c'est qu'au Québec, il y a un plus grand nombre de gens qui appuient en tant que tel les projets comme la loi 21. Là. Il y a plus de gens sur papier. Mais en termes de proportion, il y a une proportion des gens dans toutes les provinces anglophones, qui appuient également ce genre de projet-là de la laïcité, qui aimeraient en voir un chez eux.
Mais l'autre difficulté, je pense que c'est Jean-François Olisée aujourd'hui qui soulignait, le malaise avec une religion ne peut pas être vu comme synonyme de racisme. Parce qu'il disait, moi, si on me demande si j'ai un malaise avec... Il dit, moi, je fais partie des gens qui ont un malaise avec toutes les religions.
Oui.
Fait que si on me demandait si j'ai un malaise avec la religion catholique, fait que Lisée disait, tu peux pas présumer, prendre ça puis appliquer ça, c'est un sentiment anti-musulman.
Oui.
Puis c'est des gens qui aiment tous les êtres humains, mais si tu leur demandes un sentiment par rapport à la religion, il y a des gens qui sont athées ou qui sont très, très peu religieux ou anti-religieux, peu importe. Donc, ils ont un malaise avec toutes les religions. Ça veut pas dire qu'ils vont discriminer les gens qui embaucheront pas. Ils vont dire probablement, ta religion chez vous, fais ce que tu veux.
Oui, et M. Jedwab le soulignait d'ailleurs en disant que pour une raison qu'il trouve fort intéressante, là, il la cherche d'ailleurs, mais il dit les femmes musulmanes particulièrement se sentent très visées par la loi 21, qui indique que c'est vrai que dans ses fondements, elles ne visent pas une religion plus qu'une autre. Il dit il serait intéressant de chercher les causes du pourquoi elles se sentent autant visées, mais c'est certain qu'à la base, l'appui au projet de loi 21, c'est contre toutes les religions, pas simplement
ben oui.
une.
Ben oui, absolument.
Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
Alors, ces choses faites, les trois députés du Parti québécois sont devenus les premiers élus de l'histoire du Québec à siéger au Salon Bleu sans avoir prêté serment à la monarchie britannique. Paul Saint-Pierre Plamondon, qui était tout sourire avec Joël Arsenault, et Pascal Bérubé, les trois députés qui étaient présents sur place, qui sont entrés dans le Salon Bleu, même si c'était pas, il y avait seulement une poignée de parlementaires qui étaient en chambre à ce moment-là. Mais tout de même, moment qui reste historique, pour lequel Paul Saint-Pierre Plamondon était pas mal heureux. On peut écouter sa réaction ce matin en arrivant.
On tourne la page sur quelque chose qui était inacceptable et on a réglé ça en seulement 12 minutes. C'est un peu une métaphore de l'indépendance à mes yeux parce que ce qui semble parfois très difficile, finalement, ça se fait bien et rapidement, puis il n'y a plus personne qui va vouloir revenir en arrière.
Bon. On repasse ça pour la métaphore, là.
Oui. Je pense que l'indépendance du Québec en 12 minutes...
Entre enlever la moitié d'un serment puis fonder un nouveau pays, puis je dis pas que c'est pas faisable, mais il y a quand même...
En 12 minutes,
en 12 minutes, on repassera. Si on le faisait bien en 12 ans, ça serait beau. Ceci dit, moi, je trouve que le défi, écoute... D'abord, problème réglé, coché. Bravo à Paul Saint-Pierre Plamondon, député du Parti québécois. Mais ils ont obtenu sincèrement une visibilité, si on se reporte au mois de novembre dernier, début décembre, une visibilité là incroyable, là, ouais. Démesurée pour trois députés. On avait l'impression que c'était le parti le plus visible. Et le défi pour eux, ça va être de réussir. Ils seront pas à trois députés, ils pourront pas être visibles tous les jours au Parlement. Mais d'avoir, mettons, des histoires grosses, des histoires intéressantes...
Ça va être leur défi.
Une fois par semaine, une fois par 10 jours, tu sais, de revenir dans la grosse actualité, de remettre le PQ à l'avant-scène, parce qu'il y a un danger qui tombe dans l'oubli, là.
Ouais.
Puis c'est qu'en début de mandat, il a fait un gros pétard avec le serment au roi, mais qu'à mi-mandat, on les oublie. Là. Ça, c'est le danger pour eux.
Ouais, mais pourtant, dans l'actualité, Mario, il y en a de plus en plus des cas qui peuvent les intéresser. Cette nomination, là, dont on parlait il y a quelques instants, Madame El Gawabi, c'est sûr, c'est un dossier sur lequel le Parti québécois va être heureux de venir acheter son grain
mais
de sel.
Mais ils n'ont pas été les plus vocaux là-dessus cette semaine.
Non. Bien sûr. Sûr que non, mais il y a quand même
opportunités. C'est le Canada.
Si Justin Trudeau continue à jeter de l'huile sur le feu de plein de dossiers comme ceux-là, il risque d'avoir pas mal de jus pour le Parti québécois avec lequel travailler.
Plus le Canada est dysfonctionnel, plus le Canada est anti-Québec, plus le PQ a de l'eau au moulin.
On en sait un peu plus, Mario, sur cet accident de ski de Val-Saint-Côme où une fillette a malheureusement trouvé la mort dimanche. On comprenait pas exactement les circonstances au départ qui l'avaient mené à mourir en prenant un T-bar, là, un remonte-pente de type T-bar, qui est habituellement extrêmement sécuritaire, très près du sol. Et ce qu'on comprend, Mario, c'est que c'est un morceau, une pièce de vêtement ou encore d'équipement qui l'aurait étranglé alors qu'elle serait tombée du T-bar en question, qui l'aurait traîné sur quelques mètres.
Donc le bout du T-bar accroché dans quelque chose, soit son foulard, quelque chose qu'elle avait dans le cou.
Ouais, on comprend.
Elle a été traînée.
Gans de casque ou foulard, c'est vraiment l'hypothèse qu'on a en ce moment, là, puisque ça l'a étouffé.
Gans de casque.
Exact, ouais. Le casque aurait pu rester coincé, lui couper littéralement le souffle jusqu'à lui couper.
Puis elle a été traînée par le T-bar sur une distance.
Exactement, donc il y a encore une enquête là, qui doit être menée. Là,
malchance.
Mais la Sûreté du Québec qui écarte vraiment là, à date là, tout ce qui serait négligence ou bris mécanique, vraiment, ça semble être un accident tragique, mais un accident. Il y aura quand même là les résultats de l'enquête du coroner qui sont à venir pour bien, bien comprendre ce qui est arrivé.
Tout savoir en 24 minutes.
C'était le procès de Mario Roy qui s'ouvrait aujourd'hui. Un homme qui, je rappelle, avait dit que la vérité allait éclater au grand jour pour son procès, qui est jugé, lui, en ce moment, là, pour harcèlement criminel, intimidation d'une personne associée au système
là,
judiciaire.
Je les connais pas tous, les complotistes, mais c'est pas celui qui était un professionnel, c'est un compte. Je me trompe
plus. Mario Roy, là, c'est un homme qui, depuis des années, là, il a été connu du grand public pendant la pandémie, là, à 51 ans, cet homme-là qui se retrouve dans toutes sortes d'histoires, justement, là, anti-mesures sanitaires, complotistes et autres. Mais lui, ce qu'il faisait avant, depuis en 2017, c'était de donner des conseils juridiques douteux sur Facebook, Mario. Alors, il donnait de l'espèce de... Tu sais, souvent ce qu'on appelle, là, ce qui est très près des citoyens souverains là, dans ces mouvances-là, d'avoir une vision juridique un peu étrange. Mais là, lui, à ce moment-là, donnait toutes sortes de conseils. Et une avocate, qui est la victime, la plaignante dans ce dossier-là, elle avait comme avocate le mandat de protéger le public contre ceux qui donnent illégalement des conseils juridiques sans être avocat. Le problème, c'est que Mario Roy n'est pas avocat lui-même et que lorsqu'elle aurait pris contact avec lui pour tenter de lui expliquer que ben, ses conseils juridiques sont illégaux, ça pouvait mettre en danger le public, ben, elle dit que l'appel, habituellement c'est presque toujours courtois quand elle fait ça, ça ne l'était pas du tout, qu'il était enragé lorsqu'il a répondu, l'aurait insulté et par la suite, ben, il aurait tellement ignoré ses demandes qu'il aurait eu des poursuites finalement contre lui et à chaque fois, il faisait des vidéos.
Ça, c'est grave là, parce que, comment dire, bon, il y a les gens qui sont dans le mouvement complotiste jusqu'aux oreilles, bon, OK. Mais t'as des gens, à un moment donné, qui vont flirter. Ils sont choqués, ils vivent des déceptions. Mettons, là, ils étaient choqués contre les mesures sanitaires parce que leur enfant avait été retiré d'une compétition sportive. Et là, ils vont flirter dans le mouvement complotiste, se collent à ces gens-là. Et là, lui, là, leur donnait des conseils juridiques. Ah, l'étiquette, tu payeras jamais ça, sorte d'affaires. Alors, les gens se basaient là-dessus. Puis souvent, ces gens-là sont forts en gueule, fait qu'ils sont convaincants, puis ils ont le verbe facile.
Il y avait jusqu'à 10 000 visionnements sur les vidéos qu'il faisait, Mario, et des
donc,
centaines de commentaires.
Basés sur des conseils du Luberlu, les gens se mettent dans l'embarras. Les gens se mettent devant des amendes qui n'ont pas les moyens de payer, qui vont être obligés de couper dans leurs vacances pour puis couper dans les cadeaux des enfants pour se payer des contraventions de merde qu'ils n'auraient jamais dû avoir parce qu'ils s'étaient comportés comme il faut.
Absolument.
Parce qu'ils sont fiés à des conseillers juridiques entre guillemets qui en sont pas.
Ouais.
C'est assez grave. Là. C'est très grave.
Oui. Et c'est les conseils qui vont encore plus loin que ça, Mario. Là. Tu dis conseils d'Hurluberlu. Il y en a qui allaient pas mal loin. Là. Lui, là, prétendait qu'il y avait une vague d'enlèvement d'enfants par des juges et des avocats au Québec.
Oui.
Et par la suite, ben,
non, on parle pas nulle part. Là. Les parents se plaignent pas. Les parents appellent pas à TVA et à LCN pour dire « Tiens, mon enfant est disparu. » Non, 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 c'est secret.
Tu me connais, Mario. Moi, tout ce qui commence à parler d'enlèvement d'enfants, j'associe toujours ça à la mouvance QAnon de théorie complotiste. Là,
ouais,
où on pense qu'il y a un trafic d'enfants mondial qui se promène, des enlèvements massifs d'enfants qu'on ne rapporte pas parce que les médias cachent la vérité au peuple, bien évidemment.
Oui.
Mais là,
puis les parents trouvent pas de façon de le faire savoir. Là. Ils vont pas hurler sur le perron de l'église. Non, ils laissent passer. Hey, mon enfant est parti, il est disparu.
Et dans ses avis juridiques, lui donnait des façons, des prétendus moyens d'arrêter des juges, de faire des arrestations citoyennes, d'aller rencontrer un juge puis de le mettre en état d'arrestation. Alors quand on dit qu'il y a des conseils juridiques, il y en a des dangereux puis il y en a des très dangereux, mais il y a celui-là tellement que la femme, la plaignante, la victime alléguée dans ce cas-ci, dont l'identité ne peut pas être diffusée, mais elle dit que sur les réseaux sociaux, il l'insultait, la traitait de nom, dirigeait tellement de haine contre elle que ça a pris là finalement après 4 ans à décider de porter plainte, mais elle avait peur vraiment que la haine en ligne se transpose dans le monde réel. Elle dit, il y avait tellement de commentaires haineux, tellement de gens qui réagissaient à ces vidéos que je voyais sur Internet. Elle dit, j'avais peur qu'il y ait des gens influencés par lui qui prennent les armes, qui se présentent au bureau du barreau du Québec, littéralement. Donc, il lui a plaidé non coupable ce matin. Mario Roy et son procès va se poursuivre. Il a choisi un procès devant jury, d'ailleurs, qui sera entendu. Donc, c'est toute une cause, mais c'est toujours spécial, Mario, de voir ce genre de procès là arriver devant nos tribunaux. Toujours dans le juridique, une autre affaire étrange. Une femme de 42 ans qui a été condamnée pour avoir pris le volant en état d'ébriété, mais qui a pris le volant parce qu'elle voulait fuir un conjoint agressif. Des gestes qui remontent au 3 mars 2021 dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Dispute de couple qui finit par dégénérer un peu. On semble-t-il que le conjoint était à ce moment-là agressif et l'accusée décide de quitter les lieux. Elle a pris des médicaments plutôt en journée et surtout, ben, son taux d'alcool dans le sang approche du double de la limite. Et finalement, elle se rend à son véhicule, décide de prendre la route et elle appelle même elle-même la police après qu'il y a un enfant de l'homme en question, du conjoint, qui l'appelle aussi. Et là, dans les prochaines minutes, elle dit au répartiteur, j'ai beaucoup bu, je veux me rendre dans un endroit safe, c'est juste un coin de rue, je sais que j'ai pas le droit, mais je veux me rendre là pour être en sécurité. Finalement, elle parcourt 500 mètres, se stationne dans un parking commercial pour rencontrer les policiers. Finalement, elle a quand même été arrêtée pour conduite en état d'ébriété. Et là, dans le jugement, on souligne qu'elle aurait dû prendre d'autres moyens, tenter de se rendre à pied ailleurs et autres. C'est quand même un cas qui pose la porte à réfléchir.
Moi, je pense que c'est un cas là, que les maisons pour femmes violentées, etc. J'ai l'impression que c'est un cas qui est pas fini, là, qui va provoquer des réactions. Je suis toujours méfiant parce que tu me dis, bon, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites en cause, que le juge a entendu des choses qui enlèveraient de la crédibilité à l'histoire? Mais tel qu'on nous l'a décrit, surtout qu'elle a, si c'est corroboré là, qu'elle a appelé, qu'elle a averti, je comprends plutôt mal.
Économie.
Un autre départ est annoncé de la Société d'État d'Hydro-Québec aujourd'hui. Cette fois, c'est le vice-président Éric Filion qui quitte son poste. On dit que c'est vraiment pas là un congédiement, mais plutôt une démission. Il va partir le 17 février prochain, dit-on, pour relever de nouveaux défis professionnels. Lui qui était quand même pris comme un des candidats possibles, pressenti pour prendre la relève de Sophie Brochu.
Ou que finalement, il l'était pas.
Ben, c'est peut-être ça qu'on lui
pas
a...
pas vraiment pressenti, puis que pour cette raison-là, il était pas intéressé à rester vice-président sous une nouvelle présidence.
Oui, et si un départ d'une compagnie comme Hydro-Québec, ça arrive, ben c'est plutôt le nombre de départs quand même sur un an qui est assez étoffé.
Ouais, ben, c'est le départ de la présidente directrice générale, de la PDG, suivi 3 semaines après par le départ d'un vice-président. Ça fait de l'instabilité, d'autant plus que ce printemps, la présidente du conseil d'administration, ça c'est pas un départ, mais c'est un mandat qui se termine. Mais tu sais, pour les actionnaires que nous sommes, là, c'est tannant, là. Pis ouais. C'est pas que les orientations, moi je suis plutôt d'accord avec les orientations du gouvernement, là, d'hydro, du développement économique, de décarbonation de l'économie, je trouve que c'est plein de bon sens, incluant s'il faut construire de nouveaux barrages. Moi, je suis pas sûr qu'il y a un malaise avec ça, pas du tout. Mais je trouve malheureux que le gouvernement, que le ministre Fitzgibbon ou le premier ministre ait pas réussi à embarquer la direction actuelle d'Hydro-Québec dans son plan. Là. C'est pas s'il y a eu confrontation, frustration, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé.
Ça relève ces questions-là à nouveau.
Oui, oui, c'est très, très, très mauvais pour le ministre Fitzgibbon, là, cette instabilité. Depuis qu'il est ministre de l'Énergie, cette instabilité à la tête de la Société d'État qui est à la fois une vache à lait et une fierté pour les Québécois.
Le Monde.
Il y a une vidéo d'une déposition qu'a fait l'ancien président Donald Trump qui a été émis aujourd'hui au grand public et qui concerne toute l'investigation qu'il avait eu au civil contre la Trump Organization, hein, son entreprise qu'il a gérée toute sa vie. Et on comprend qu'il a dû donner justement une déposition, faire un témoignage devant les avocats. Et
c'est comme un interrogatoire. Il était
un interrogatoire,
ouais.
Okay. Ouais, ce qu'on appelle une déposition. Ouais, là, ouais. C'est vraiment cet interrogatoire
combien
formel.
Minutes, combien de temps?
Eh bien, on dit que ça dure là, une 37 minutes environ, cette déposition. Mais surtout que sur les 37, il y en a 7 par lesquels il commence dans ce qu'on appelle le opening statement, là, ces témoignages d'ouverture, et dans lesquels ben il dit que c'est une chasse aux sorcières, qu'on s'attaque à lui, que tout le monde est contre lui. Exact, il prend 7 bonnes minutes pour dire ça. Mais ce qui est surtout très curieux, Mario, c'est qu'on peut l'entendre à de très nombreuses reprises prendre encore et encore et encore ce qu'on appelle le 5e amendement, taking the 5th. Aux États-Unis, prendre le 5e amendement, c'est ce droit à ne pas s'incriminer soi-même.
C'est ça.
Et je peux te laisser écouter, on l'entend à de nombreuses reprises parler comme ceci, surtout au départ.
Anyone in my position not taking the 5th amendment would be a fool, an absolute fool.
N'importe qui prendrait pas le 5e dans ma position serait un fou. C'est complètement fou. Et c'est étrange, Mario, parce que j'étais allé à la pêche un tout petit peu et on remonte à 2018. Il faisait une allocution, je pense, de campagne, discours devant une foule, et on peut entendre le président Trump dire ceci.
Taking the Fifth Amendment, like you see on the mob, right? You see the mob takes the Fifth. If you're innocent, why are you taking the Fifth Amendment?
Alors, il dit, on voit les gens de la mafia, les bandits prendre le 5e amendement. Il dit, pourquoi prendre le 5e amendement quand t'es innocent? Et là, je trouvais ça très drôle de le voir le prendre à de nombreuses reprises dans cette vidéo. Ça a été souligné beaucoup, évidemment, en ligne par plusieurs internautes. Donc, même si ce cas là, contre la Trump Organization est pas mal fermé, ça reste qu'il y en a d'autres, des procédures judiciaires contre M. Trump qui risquent de revenir. Et...
Mais ça laisse entendre qu'il n'était pas particulièrement à l'aise pour répondre aux questions. Là.
Ouais,
il n'y avait pas de réponse satisfaisante à fournir.
Citons-le lui-même, si t'es innocent, pourquoi prendre le 5e? Et finalement, Mario, dans les trucs viraux sur le web, il y a une vidéo qui, en deux jours, a atteint 62 millions de visionnements. Alors qu'il est, ça doit être pas mal plus que ça. Même MrBeast, qui est un des YouTubers les plus suivis au monde, a fait une vidéo dans laquelle, c'est assez spécial, il permet à 1000 personnes d'un peu partout dans le monde qui sont aveugles en raison, l'aveugle Lego, en raison de cataracte, de recouvrer la vue. Hein, parce que c'est une opération d'une dizaine de minutes, assez simple, mais souvent dispendieuse, qui permet aux gens comme ça de revoir, hein, de recouvrir la vue littéralement. Et c'est devenu absolument viral.
Mais c'est parce qu'il finance, les gens qui retrouvent la vue avec l'argent de la vidéo de... On les voit pour la première fois, on voit leur émerveillement, on constate leur émerveillement.
Ouais, puis
c'est beau à voir, sérieusement, c'est émouvant. Là.
C'est émouvant, puis c'est l'habitude, c'est comme ça que MrBeast est devenu là vraiment le YouTuber le plus suivi du monde, c'est toujours avec des activités philanthropiques de la sorte où il donne des cadeaux aux gens de manière surprise.
Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.